Chapitre 12. Le tournoi des trois sorciers. Avançant avec difficulté, les diligences franchirent le grand portail flanqué de statues représentant des sangliers ailés et remontèrent l'allée du château dans une véritable tempête qui les faisait osciller dangereusement. Appuyé contre la vitre, Harry regardait s'approcher Poudlard dont les fenêtres illuminées scintillaient, brouillées par l'épais rideau de pluie. Des éclairs traversèrent le ciel lorsque leur diligence s'arrêta devant les grandes portes de chêne auxquelles on accédait par un large escalier de pierre. Les passagers des premières diligences montaient déjà les marches 4 à 4 pour entrer au plus vite dans le château. Harry, Ron, Hermione et Neville sautèrent de leur diligence et se précipitèrent à leur tour en haut de l'escalier, ne relevant la tête que lorsqu'ils furent parvenus dans l'immense hall d'entrée, éclairé par des torches enflammées avec son magnifique escalier de marbre.
« Nom d'un vampire !» s'écria Ron en secouant ses cheveux qui projetèrent de l'eau tout autour de lui. « Si ça continue comme ça, le lac va déborder, moi je suis trempé !»
Un gros ballon rouge plein d'eau venait de tomber du plafond et d'exploser sur la tête de Ron. Ruisselant, crachotant, Ron tituba et heurta Harry au moment où tombait une deuxième bombe à eau qui manqua de peu Hermione. La bombe explosa au pied de Harry dont les chaussures furent submergées par une vague d'eau glacée qui pénétra jusque dans ses chaussettes. Autour d'eux, des élèves s'enfuyaient en tous sens, se poussant les uns les autres, lançant des cris stridents. Harry leva les yeux et vit Peeves, l'esprit frappeur, qui flottait à 5 ou 6 mètres au-dessus du sol. Il avait l'apparence d'un petit homme coiffé d'un chapeau à clochette, une cravate orange autour du cou, son gros visage malveillant tendu par la concentration tandis qu'il visait à nouveau.
« Peeves !» hurla une voix furieuse. « Peeves, descend immédiatement !»
Le professeur McGonagall, directrice adjointe de Poudlard et chef de la maison Gryffondor, venait de sortir en trombe de la grande salle. Elle glissa sur le sol humide et saisit Hermione par le cou pour se rattraper.
« Aïe ! Oh, désolée, mademoiselle Granger !»«
Il n'y a pas de mal, professeur !»
bredouilla Hermione en se massant la gorge.
« Peeves, descend tout de suite !»
aboya le professeur McGonagall. Elle redressa son chapeau pointu et lança à l'esprit frappeur un regard noir derrière ses lunettes rectangulaires.
« Je n'ai rien fait de mal !»
caqueta Peeves. Il jeta une nouvelle bombe sur un groupe de filles qui se ruèrent en hurlant dans la grande salle.
« Ils sont déjà mouillés, non ? Petit morveux !»
Et il lança une autre bombe sur des élèves de deuxième année qui venaient d'arriver.
« Je vais appeler le directeur !» s'écria le professeur McGonagall. « Je te préviens, Peeves !»
L'esprit frappeur lui tira la langue, jeta en l'air la dernière de ses bombes à eau et fila dans l'escalier de marbre en glapissant comme un fou.
« Bon, allons-y maintenant !» dit sèchement le professeur McGonagall à la foule en désordre des élèves. « Tout le monde dans la grande salle !»
Harry, Ron et Hermione traversèrent le hall d'entrée, glissant et trébuchant sur le sol mouillé et franchirent les doubles portes qui donnaient sur la grande salle. Ron marmonnait d'un air furieux en relevant ses cheveux trempés qui lui tombaient sur le front. La grande salle était toujours aussi splendide avec ses décorations à l'honneur du festin de début d'année. Assiettes gobelets d'or scintillaient à la lumière de centaines de chandelles qui flottaient en l'air au-dessus des convives. Des élèves bavardaient autour des 4 longues tables qui représentaient chacune une des 4 maisons de Poudlard. À l'extrémité de la salle, une 5e table avait été dressée pour les professeurs face à leurs élèves. Il faisait beaucoup plus chaud ici. Harry, Ron et Hermione passèrent devant les tables des Serpentards, des Serdaigles et des Poufsouffles, puis allèrent s'asseoir avec les autres Gryffondor à l'autre bout de la salle, près de Nick, quasi sans tête, le fantôme de Gryffondor. D'un blanc nacré à demi transparent, Nick était vêtu de son habituel pourpoint, orné d'une fraise impressionnante qui avait la double fonction de souligner le caractère festif de cette soirée et d'empêcher sa tête de trop vaciller sur son cou presque entièrement tranché.
« Belle soirée, n'est-ce pas ? »
lança-t-il avec un grand sourire. « À qui le dites-vous ? » répondit Harry en enlevant ses chaussures qu'il vida de leur eau. « J'espère qu'ils vont se dépêcher de faire la répartition. Je meurs de faim. » La répartition des nouveaux élèves dans les 4 maisons de Poudlard avait lieu au début de chaque année, mais par un malheureux concours de circonstances, Harry n'y avait plus assisté depuis sa propre entrée au collège et il était content de pouvoir être là ce soir. À cet instant, une voix haletante et surexcitée l'appela au bout de la table.
Salut, Harry !
C'était Colin Crivet, un élève de 3e année, aux yeux de qui Harry apparaissait comme un héros.
« Salut, salut, Colin !» dit Harry d'un ton méfiant.
« Harry, tu sais quoi, Harry ? Mon frère entre en première année, oui, mon frère Denis. »«
Ah bien, très bien, » dit Harry.
Il est vraiment fou de joie, assura Colin en sautant quasiment sur sa chaise. J'espère qu'il va être un Gryffondeur, hein. Croise les doigts, hein, Harry. Ouais, c'est ça, répondit Harry.
Il se tourna vers Ron, Hermione et Nick quasi sans tête.
Les frères et sœurs vont généralement dans la même maison, non? Dit-il.
Il avait tiré cette conclusion du fait que les Weasley étaient allés tous les sept à Gryffondor.
Non, pas nécessairement, répondit Hermione.
La jumelle de Parvati Patil est à Serdaigle.
Et pourtant, elles sont parfaitement identiques. On aurait pu penser qu'elles resteraient ensemble, non?
Harry regarda la table des professeurs. Il semblait y avoir plus de chaises vides que d'habitude. Hagrid, bien sûr, était encore sur le lac, en train de braver les éléments pour amener au château les élèves de première année.
Le professeur McGonagall devait sans doute veiller à ce que le sol du hall d'entrée soit essuyé, mais il restait encore une chaise inoccupée et il se demanda qui d'autre pouvait bien être absent.
« Où est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal ?» demanda Hermione qui observait également la table.
Aucun de leurs professeurs de défense contre les forces du mal n'était resté en poste plus d'une année. Le préféré de Harry était de loin le professeur Lupin qui avait donné sa démission l'année précédente.
Harry regarda attentivement les professeurs assis à la longue table. Aucun doute possible, il n'y avait pas de tête nouvelle. « Ils n'ont peut-être pas réussi à en trouver un ?» dit Hermione l'air anxieux.
Le minuscule professeur Flitwick, qui enseignait les enchantements, était assis sur une épaisse pile de coussins à côté de Madame Chourave, professeure de botanique, qui portait un chapeau posé de travers sur ses cheveux gris en désordre. Elle bavardait avec le professeur Sinistra, chargé de l'astronomie. De l'autre côté, on apercevait le visage cireux au nez busqué de Rogue, le maître des potions, la personne que Harry aimait le moins à Poudlard. Son aversion pour Rogue n'avait égal que la haine de celui-ci envers Harry. Une haine qui, si c'était possible, s'était encore intensifiée l'année précédente, lorsque Harry avait aidé Sirius Black à s'enfuir sous le gros nez de Rogue. Rogue et Sirius étaient ennemis depuis l'époque où ils avaient été eux-mêmes élèves à Poudlard. À côté de Rogue, il y avait une chaise vide qui devait être celle du professeur McGonagall. Au centre de la table, vêtu de sa magnifique robe de sorcier vert foncé brodée d'étoiles et de lunes, était assis le professeur Dumbledore, le directeur du collège, ses longs cheveux et sa barbe argentée scintillant à la lumière des chandelles. Dumbledore avait joint ses longs doigts fins sous son menton et contemplait le plafond à travers ses lunettes en demi-lune, comme perdu dans ses pensées. Harry leva également les yeux vers le plafond enchanté qui reproduisait exactement l'aspect du ciel au dehors. Jamais Harry ne l'avait vu aussi sombre et orageux. Des nuages noirs et pourpres s'y entremêlaient, et lorsqu'un coup de tonnerre retentit au-dessus du château, un éclair fourchu traversa le plafond magique.
« Bon, il se dépêche, oui, » grommela Ron à côté de Harry. « J'ai tellement faim que je pourrais manger un hippogriffe. »
Il avait à peine achevé sa phrase que les portes de la grande salle s'ouvrirent et le silence se fit. Le professeur McGonagall entra à la tête d'une longue file d'élèves de première année qu'elle amena au bout de la salle, près de la table des professeurs. Si Harry, Ron et Hermione étaient mouillés, ce n'était rien comparé au spectacle qu'offraient les malheureux nouveaux. On aurait dit qu'ils avaient traversé le lac à la nage plutôt qu'en barque. Lorsqu'ils se mirent en rang face aux autres élèves, tous frissonnaient de froid et d'anxiété. Tous, sauf un. Un garçon aux cheveux clairs et ternes, plus petit que les autres, enveloppé dans le manteau en peau de taupe de Hagrid. Le manteau était si grand pour lui qu'il paraissait enroulé dans une tente de fourrure. Son visage, qui dépassait tout juste du col, exprimait une telle excitation qu'elle en paraissait presque douloureuse. Quand il eut rejoint le rang de ses camarades terrorisés, le garçon croisa le regard de Colin Crivet, leva le pouce par deux fois, et ses lèvres formèrent silencieusement les mots « Je suis tombé dans le lac !» ce qui semblait le plonger dans la plus totale félicité. Le professeur McGonagall posa alors sur le sol un tabouret à trois pieds et y plaça un très vieux chapeau de sorcier, sale et rapiécé. Les nouveaux élèves, comme les anciens, l'observèrent attentivement. Pendant un moment, il y eut un grand silence. Puis, une déchirure dans l'étoffe élimée du chapeau, tout près du bord, s'ouvrit comme une bouche et le chapeau se mit à chanter.
« Voici un peu plus de 1000 ans, lorsque j'étais jeune et fringant, vivaient quatre illustres sorciers dont les noms nous sont familiers. Le hardi Gryffondor habitait dans la plaine, Poufsouffle le gentil vivait parmi les chênes, Serdaigle le loyal régnait sur les sommets, Serpentard le rusé préférait les marais. Ils avaient un espoir, un souhait et un rêve, le projet audacieux d'éduquer les élèves. » Ainsi naquit Poudlard. noirs sous leurs quatre étendards. Chacun montra très vite sa vertu favorite et enfit le blason de sa propre maison.
Aux yeux de griffon d'or, il fallait à tout âge montrer par-dessus tout la vertu de courage. La passion de Serre d'Aigle envers l'intelligence animait son amour des bienfaits de la science. Pouf souffle avait le goût du travail acharné. Tous ceux de sa maison y étaient destinés.
Serpentard assoiffé de pouvoir et d'action, recherchait en chacun le feu de l'ambition.
Ainsi, tout au long de leur vie, choisir leurs favoris, mais qui pourrait les remplacer quand la mort viendrait les chercher? Griffon d'or eut l'idée parfaite de me déloger de sa tête.
Les quatre sorciers aussitôt me firent le don d'un cerveau
pour que je puisse sans erreur
voir tout au fond de votre cœur
et décider
avec raison ce que sera votre maison en un.
Lorsque le choipeau magique eut fini sa chanson, la grande salle éclata en applaudissements.
« C'est pas la même que celle qu'il a chantée pour notre première année, » dit Harry en applaudissant avec les autres.
« Il en chante une différente chaque fois, » dit Ron. « Ça doit pas être très drôle comme vie d'être sa peau, hein. J'imagine qu'il doit passer toute l'année à préparer la prochaine chanson. »
Le professeur McGonagall déroulait à présent un grand rouleau de parchemin.
« Quand j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau sur votre tête et vous vous assierez sur le tabouret, » dit-elle au nouveau. « Lorsque le chapeau annoncera le nom de votre maison, vous irez prendre place à la table correspondante. Je commence. Ackerley, Stewart. »
Un garçon s'avança, tremblant de la tête aux pieds, prit le choipeau, le posa sur sa tête et s'assit sur le tabouret.
« Serre d'aigle !» cria le choipeau.
Stewart Ackerley ôta le chapeau et se précipita à la table des serres d'aigle où tout le monde l'applaudit. Harry aperçut Cho, la trappeuse de l'équipe des serres d'aigle, qui accueillait le nouveau avec des cris de joie. Pendant un instant, Harry éprouva l'étrange désir d'aller lui aussi s'asseoir à leur table.
« Badoc, Malcolm, Serpentard !»
Des acclamations enthousiastes retentirent à la table située de l'autre côté de la salle. Harry vit Malfoy applaudir Badoc qui rejoignait les Serpentards. Harry se demanda si Badoc savait que Serpentard avait produit plus d'adeptes de la magie noire qu'aucune autre maison. Fred et George sifflèrent Badoc lorsqu'il s'assit à la table.
« Branston, Eleanor, Pouf Souffle, Caldwell, Owen, Pouf Souffle, Crivet, Denis !»
Le minuscule Denis Crivet s'avança d'un pas titubant, se prenant les pieds dans le manteau de Hagrid, tandis que Hagrid lui-même entrait dans la grande salle en se glissant par une porte située derrière la table des professeurs. À peu près deux fois plus grand qu'un homme normal et au moins trois fois plus large, Hagrid, avec sa barbe et ses cheveux noirs et hirsutes, avait l'air un peu inquiétant. Mais c'était une apparence trompeuse. Harry, Ron et Hermione savaient qu'au contraire, il était d'une nature particulièrement généreuse. Il leur lança un clin d'œil en s'asseyant au bout de la table des professeurs et regarda Denis Crivet coiffer le choipeau magique. La déchirure près du bord s'ouvrit largement.
« Griffon d'or !»
s'écria le choipeau. Hagrid applaudit en même temps que les élèves de Griffon d'or lorsque Denis Crivet, le visage rayonnant, ôta le choipeau magique, le reposa sur le tabouret et se hâta d'aller s'asseoir à la table où se trouvait déjà son frère.
« Colin, je suis tombé dedans !»
s'exclama-t-il d'une voix perçante en se jetant sur une chaise vide.
« C'était formidable! Il y a quelque chose dans l'eau qui m'a attrapé et m'a remis dans le bateau !»«
Super !» dit Colin du même ton enthousiaste.
« C'était sans doute le calmar géant !»
« Waouh !»
s'écria Denis, comme si on ne pouvait rêver mieux que de tomber dans les eaux déchaînées d'un lac insondable et d'en être rejeté par un monstre aquatique.
« Denis, tu vois ce garçon là-bas? Celui avec les cheveux noirs et les lunettes, tu le vois? Et tu sais qui c'est, Denis ?»
Harry détourna les yeux et fixa son regard sur le choipeau magique qui choisissait la maison d'Emma Dobbs. La répartition se poursuivit. Garçons et filles, dont le visage exprimait divers degrés d'appréhension, s'approchaient un par un du tabouret à trois pieds, la file diminuant lentement à mesure que le professeur McGonagall avançait dans l'alphabet. Elle en était à présent au nom qui commençait par un M.
« Qu'elle se dépêche !»
marmonna Ron en se passant une main sur le ventre.
« Allons, Ron, la répartition est beaucoup plus importante que de manger. »
fit remarquer Nick quasi sans tête pendant que Madeleine, Laura, était envoyé à Pouf Souffle.
bien sûr, quand on est mort, répliqua Ron. J'espère que les nouveaux Gryffondors de l'année seront à la hauteur, dit Nick quasi sans tête en applaudissant McDonald, Nathalie, qui venait de rejoindre leur table. Il faut continuer à gagner, n'est-ce pas? Au cours des trois dernières années, c'était Gryffondor qui avait gagné la Coupe des Quatre Maisons.
Pritchard, Crumb, Serpenta, Quirk, Orla, Serdaigle.
Enfin, avec
Whitby, Kevin, Poufsouffle.
La répartition se termina. Le professeur McGonagall prit le chapeau et le tabouret et les emporta.
Il était temps,
dit Ron, qui saisit son couteau et sa fourchette et posa sur son assiette d'or un regard avide. Le professeur Dumbledore s'était levé, adressant un sourire chaleureux aux élèves rassemblés. Il ouvrit largement les bras dans un geste de bienvenue.
« Je n'ai que deux mots à vous dire, » déclara-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Bon appétit !» Ah oui.
« Bravo, bien dit !» s'exclamèrent Harry et Ron d'une même voix, tandis que les plats vides se remplissaient par magie sous leurs yeux.
Nick, quasi sans tête, regarda d'un air attristé Harry, Ron et Hermione remplir leurs assiettes.
« Ah, ça commence déjà à aller mieux !» dit Ron, la bouche pleine de purée.
« Vous avez de la chance que le festin ait pu avoir lieu, » dit alors Nick, quasi sans tête. « Il y a eu des ennuis à la cuisine cet après-midi. »«
Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Harry, qui mâchait un impressionnant morceau de steak.
« C'est la faute de Peeves, bien sûr, » répondit Nick, quasi sans tête, en remuant sa tête qui oscilla dangereusement. Il remonta un peu sa fraise.
La discussion habituelle. Il voulait assister au festin. Impossible, bien sûr, vous le connaissez. Il est incapable d'avoir des manières civilisées. Il ne peut pas voir une assiette pleine sans la jeter par terre. Nous avons tenu un conseil des fantômes. Le moine gras voulait lui donner une chance, mais le baron sanglant s'y est formellement opposé, ce qui est beaucoup plus sage, à mon avis.
Le baron sanglant était le fantôme des Serpentards, un spectre émacié, silencieux, couvert de taches de sang argenté. C'était la seule personne à Poudlard qui avait de l'autorité sur Peeves.
« Oui, Peeves paraissait fou de rage, on a vu ça, » dit Ron d'un air sombre. « Qu'est-ce qu'il a fait dans la cuisine ?»«
Oh, comme d'habitude, » répondit Nick quasi sans tête en haussant les épaules. « Il a tout mis sans dessus dessous. » Il y avait des marmites et des casseroles partout. Le carrelage était inondé de soupe. Il a terrifié les elfes de maison.
Dans un bruit de métal, Hermione reposa brutalement son gobelet, répandant du jus de citrouille sur la nappe de lin blanc, qui fut soudain constellée de taches oranges. Mais Hermione n'y prêta aucune attention.
« Il y a des elfes de maison, ici »
dit-elle en regardant Nick quasi sans tête d'un air horrifié.
« Ici, à Poudlard ?»«
Bien sûr. » répondit le fantôme, surpris de sa réaction. « Il y en a même plus que dans n'importe quelle autre résidence de Grande-Bretagne. Je crois qu'ils sont plus d'une centaine. »«
N'en ai jamais vu un seul, »
dit Hermione.
« Ils ne quittent presque jamais la cuisine en plein jour, »
expliqua Nick, quasi sans tête.
« Ils sortent la nuit pour nettoyer un peu, s'occuper de mettre des bûches dans le feu et tout le reste. » On n'est pas censé les voir, n'est-ce pas? Le propre d'un bon elfe de maison, c'est de faire oublier sa présence.
Hermione le regarda fixement.
« Mais on les paie, » demanda-t-elle. « On leur donne des vacances et des congés maladie, des retraites, tout ça. »
Nick, quasi sans tête, se mit à pouffer de rire, si fort que sa fraise glissa et sa tête tomba de côté, retenue par les quelques centimètres de peau et de muscles fantomatiques qui la rattachaient encore à son cou.
Des congés maladie et des retraites. Oh,
dit-il en remettant sa tête sur ses épaules et sa fraise autour de son cou.
Mais les elfes de maison ne veulent pas de congé maladie, ni de retraite. »
Hermione baissa les yeux sur son assiette qu'elle avait à peine touchée, puis elle y posa son couteau et sa fourchette et la repoussa.
« Allons, Hermignonne !»
dit Ron qui renversa malencontreusement de la sauce de rose-bif sur Harry.
« Oups! Oh, excuse-moi, Harry.
Il avala sa bouchée de viande. Ce n'est pas en mourant de faim que tu leur obtiendras des congés maladie.
C'est de l'esclavage, répliqua Hermione, la respiration sifflante. C'est grâce à ça qu'on a eu ce dîner, grâce à tes esclaves.
Et elle refusa d'avaler quoi que ce soit d'autre. La pluie continuait de crépiter contre les hautes fenêtres sombres. Un nouveau coup de tonnerre ébranla les vitres et le plafond au ciel d'orage fut traversé d'un éclair qui illumina les assiettes d'or au moment où les restes du plat de viande disparaissaient, immédiatement remplacés par des gâteaux.
« C'est de la tarte à la mélasse, Hermione !»
annonça Ron en lui faisant sentir l'appétissant fumée qui s'en dégageait.
« Et regarde, il y a aussi du pudding au raisin sec et du gâteau au chocolat.
Mais Hermione lui lança un regard qui lui rappelait tellement le professeur McGonagall qu'il préféra ne pas insister. Lorsque les gâteaux eurent été engloutis et que les assiettes, nettoyées de leurs dernières miettes, eurent retrouvé tout leur éclat, Albus Dumbledore se leva à nouveau. Presque aussitôt, la rumeur des conversations s'évanouit, et l'on n'entendit bientôt plus que le gémissement du vent et le martèlement de la pluie.
« Et voilà !» dit Dumbledore avec un grand sourire. « Maintenant que nous avons été nourris, abreuvés, je dois, une fois de plus, vous demander votre attention afin de vous donner quelques informations. Oui. » « Monsieur Ruzard, le concierge, m'a demandé de vous avertir que la liste des objets interdits dans l'enceinte du château comporte également cette année les yo-yo hurleurs, les frisbees à dents de serpent et les boomerangs à mouvement perpétuel. La liste complète comprend 437 articles, si mes souvenirs sont exacts, et peut être consultée dans le bureau de Monsieur Ruzard pour ceux qui seraient intéressés. »
Les coins de la bouche de Dumbledore tressaillirent.
« Je voudrais également vous rappeler, poursuivit-il, que, comme toujours, la forêt est interdite à tous les élèves. Hein ? Et le village de Préola à celles et ceux qui n'ont pas encore atteint la troisième année d'études. Je suis également au regret, de vous annoncer que la coupe de Quidditch des quatre maisons n'aura pas lieu cette année. »
Quoi ?
Dit Harry. Il se tourna vers Fred et George, ses coéquipiers de l'équipe de Quidditch de Gryffondor.
Trop effaré pour pouvoir parler, ils regardaient Dumbledore avec des yeux ronds, leurs lèvres remuant silencieusement.
« Cela est dû, » continua Dumbledore, « à un événement particulier qui commencera en octobre et se poursuivra tout au long de l'année scolaire, en exigeant, de la part des professeurs, beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Mais je suis persuadé que vous en serez tous enchantés. Oh oui. J'ai en effet le grand plaisir de vous annoncer que cette année, à Poudlard... »
Mais au même instant, un coup de tonnerre assourdissant retentit et les portes de la grande salle s'ouvrirent à la volée. Un homme se tenait sur le seuil, appuyé sur un grand bâton et enveloppé d'une cape de voyage noire. Toutes les têtes se tournèrent vers le nouveau venu, soudain illuminé par un éclair qui zébra le plafond magique. L'homme ôta son capuchon, secoua une longue crinière de cheveux gris sombre, puis s'avança en direction de la table des professeurs. Un claquement sourd, régulier, résonnait en écho dans la grande salle, ponctuant ses pas. Lorsqu'il eut atteint l'extrémité de la table des professeurs, il se dirigea vers Dumbledore d'un pas lourd et claudiquant. Un autre éclair illumina le plafond, et Hermione eut un haut-le-corps.
L'éclair avait jeté une lumière crue sur le visage de l'étranger, un visage comme celui-là. Harry n'en avait encore jamais vu. On aurait dit qu'il avait été taillé dans un vieux morceau de bois usé par quelqu'un qui n'aurait eu qu'une très vague idée de la physionomie humaine et de l'art de la sculpture. Chaque centimètre carré de sa peau paraissait marqué de cicatrices. Sa bouche avait l'air d'une entaille tracée en diagonale et il lui manquait une bonne partie du nez. Mais c'était surtout ses yeux qui le rendaient effrayant. L'un d'eux était petit, sombre, perçant. L'autre était grand, rond, comme une pièce de monnaie, et d'un bleu vif, électrique. L'œil bleu remuait sans cesse, sans jamais scier, roulant dans son orbite. D'un côté, de l'autre, de haut en bas, totalement indépendant de l'œil normal. Il pouvait également se retourner complètement pour regarder en arrière. On ne voyait plus alors qu'un globe blanc. L'étranger arriva devant Dumbledore,
Il tendit une main aussi labourée de cicatrices que son visage, et Dumbledore la serra en murmurant des paroles que Harry ne put entendre. Il semblait demander quelque chose à l'homme qui hocha la tête sans sourire et répondit à voix basse. Dumbledore approuva et lui fit signe de s'asseoir sur une chaise vide du côté droit de la table. L'homme s'assit, secoua sa crinière grise pour dégager son visage, tira vers lui une assiette de saucisses, la leva vers ce qui restait de son nez et renifla. Il sortit ensuite de sa poche un petit couteau, en planta la pointe dans une des saucisses et commença à manger. Son œil normal était fixé sur son assiette, mais l'œil bleu ne cessait de s'agiter dans son orbite, embrassant du regard la grande salle et les élèves assis autour des tables.
« Je vous présente notre nouveau professeur de défense contre les forces du mal !» déclara Dumbledore d'une voix claire qui rompit le silence. « Le professeur Maugret !»
D'habitude, les nouveaux professeurs étaient salués par des applaudissements. Cette fois, pourtant, ni les élèves ni les professeurs n'applaudirent, à l'exception de Dumbledore et de Hagrid. Mais il y avait quelque chose de lugubre dans ces quelques battements de mains dont l'écho résonna dans le silence général, et ils n'insistèrent pas. Tous les autres semblaient tellement pétrifiés par l'étrange apparence du professeur Maugret qu'ils se contentaient de le regarder fixement.
« Maugret !» murmura Harry à l'oreille de Ron. « Maugret Voleuil, celui que ton père est allé aider ce matin. »« Sans doute !» répondit Ron d'une voix basse et intimidée. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» chuchota Hermione. « Qu'est-ce qui est arrivé à son visage ?»« Fais pas !» dit Ron en regardant Maugret d'un air fasciné.
Le professeur Maugret paraissait totalement indifférent à cet accueil peu chaleureux. Négligeant le pichet de jus de citrouille posé devant lui, il fouilla à nouveau dans la poche de sa cape, en sortit une flasque et but une longue gorgée de son contenu. Lorsqu'il tendit le bras pour boire, sa cape se souleva du sol de quelques centimètres et Harry aperçut sous la table l'extrémité d'une jambe de bois sculptée, terminée par un pied doté de griffes. Dumbledore s'éclaircit à nouveau la gorge.
« Comme je m'apprêtais à vous le dire... »
reprit-il en souriant à la foule des élèves qui contemplaient toujours Maugret Folleuil d'un air stupéfait.
« Nous allons avoir l'honneur d'accueillir au cours des prochains mois un événement que nous n'avons plus connu depuis un siècle. Oui, oui, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que le tournoi des trois sorciers se déroulera cette année à Poudlard. Oui. »
« Vous plaisantez !» s'exclama Fred Weasley. L'atmosphère de tension qui s'était installée dans la salle depuis l'arrivée de Maugret se dissipa soudain. Presque tout le monde éclata de rire et Dumbledore lui-même pouffa d'un air amusé.
« Non, je ne plaisante pas, monsieur Weasley. Mais si vous aimez la plaisanterie, j'en ai entendu une très bonne cet été. C'est un troll, une harpie et un farfadé qui entrent dans un bar. »
Le professeur McGonagall s'éclaircit bruyamment la gorge.
c'est vrai, oui, dit Dumbledore. Le moment n'est peut-être pas venu de... Oui, alors, où en étais-je ? Ah, oui. Le tournoi des trois sorciers. Certains d'entre vous ne savent pas en quoi consiste ce tournoi, oui. Je demande donc à ceux qui savent de me pardonner d'avoir à donner quelques explications. Pendant ce temps-là, ils sont autorisés à penser à autre chose. Oui. Le tournoi des trois sorciers a eu lieu pour la première fois il y a quelque 700 ans. S'agissait d'une compétition amicale entre les trois plus grandes écoles de sorcellerie d'Europe, Poudlard, Beauxbâton et Durmstrang. Un champion était sélectionné pour représenter chacune des écoles et les trois champions devaient accomplir trois tâches à caractère magique. Chaque école accueillait le tournoi à tour de rôle tous les 5 ans, oui, et tout le monde y voyait un excellent moyen d'établir des relations entre jeunes sorcières et sorciers de différentes nationalités. Jusqu'à ce que le nombre de morts devienne si élevé que la décision fut prise d'interrompre le tournoi.
« Le nombre de morts ?» chuchota Hermione effarée.
Mais ces appréhensions ne semblaient pas partagées par la majorité des élèves présents. Beaucoup d'entre eux se parlaient à voix basse d'un air enthousiaste et Harry lui-même avait hâte d'en savoir plus sur le tournoi, indifférent aux victimes qu'il avait pu faire des centaines d'années auparavant.
« Au cours des siècles, Il y a eu plusieurs tentatives pour rétablir le tournoi, poursuivi Dumbledore. Mais aucune n'a rencontré un grand succès. Cette année pourtant, oui, notre département de la coopération magique internationale et celui des jeux et sports magiques ont estimé, oui, que le moment était venu d'essayer de le faire revivre. Nous avons tous beaucoup travaillé au cours de l'été pour nous assurer que cette fois, aucun champion ne se trouvera en danger de mort. Oui, les responsables de Beaubaton et de Durmstrang arriveront en octobre avec une liste de candidats et la sélection des trois champions aura lieu le jour de Halloween. Un juge impartial décidera quels sont les élèves qui sont les plus dignes de concourir pour le trophée des trois sorciers. La gloire, oui, oui, la gloire de leur école et une récompense personnelle de 1000 galions.
« Moi, je me lance !» chuchota Fred Wesley, enthousiasmé par la perspective de tant de gloire et de richesse.
Il n'était pas le seul à s'imaginer champion de Poudlard. À chaque table, Harry voyait des élèves chuchoter avec ferveur à l'oreille de leurs voisins ou regarder Dumbledore d'un air extatique. Mais dès que Dumbledore reprit la parole, un silence total revint dans la salle.
« Je sais, oh oui, je sais que vous êtes tous impatients de rapporter à Poudlard le trophée des trois sorciers. » Mais les responsables des trois écoles en compétition, en accord avec le ministère de la magie, ont jugé qu'il valait mieux cette année imposer de nouvelles règles concernant l'âge des candidats. Seuls les élèves majeurs, c'est-à-dire qui ont 17 ans ou plus, seront autorisés à soumettre leur nom à la sélection. Il s'agit là...
Dumbledore haussa légèrement la voix car plusieurs élèves poussaient des exclamations scandalisées et les jumeaux Wesley paraissaient soudain furieux.
Il s'agit là d'une mesure que nous estimons nécessaire, compte tenu de la difficulté des tâches imposées qui resteront dangereuses, en dépit des précautions prises. Il est en effet hautement improbable que les élèves, n'ayant pas encore atteint la 6e ou la 7e année d'études, puissent les accomplir sans risque. Voilà. Je m'assurerai personnellement qu'aucun élève d'âge inférieur à la limite imposée ne puisse tricher sur son âge pour essayer de se faire admettre comme champion de Poudlard par notre juge impartial. »
Ses yeux clairs étincelèrent en se posant sur Fred et George, dont le visage exprimait ouvertement leur sentiment de révolte.
« Je vous demande donc de ne pas perdre votre temps à essayer de vous porter candidat si vous avez moins de 17 ans. Comme je vous l'ai dit, les délégations des écoles de Beaubaton et de Durmstrang arriveront en octobre et resteront parmi nous pendant la plus grande partie de l'année scolaire. Ah. » Je ne doute pas que vous manifesterez la plus grande courtoisie envers nos autres étrangers tout au long de leur séjour, oui, et que vous apporterez votre entier soutien au champion de Poudlard lorsqu'il ou elle aura été désigné. Mais il se fait tard à présent, oui, oui, et je sais combien il est important que vous soyez frais et dispo pour vos premiers cours demain matin. Alors, tout le monde au lit, hein? Et vite !»
Dumbledore se rassit et se tourna vers Maugrey Folleuil. Tous les élèves se levèrent dans le vacarme des chaises qui glissaient sur le sol et se dirigèrent en masse vers la double porte donnant sur le hall d'entrée. « Ils ne peuvent pas nous faire ça !» s'écria George Wesley, qui n'avait pas encore rejoint la foule des élèves et restait là à regarder Dumbledore d'un air furieux.
« On va avoir 17 ans en avril! Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tenter notre chance ?»«
Ils ne m'empêcheront pas d'être candidat !» dit Fred d'un air buté, en lançant également un regard indigné à la table des professeurs. « Les champions vont pouvoir faire plein de choses qui sont interdites en temps normal. Et en plus, il y a 1000 galions à gagner !»«
Oui, »
dit Ron d'un air rêveur.
« 1000 galions ?»« Allez, venez, » dit Hermione. « Si vous ne bougez pas d'ici, on va être les derniers. »
Harry, Ron, Hermione, Fred et George se dirigèrent à leur tour vers le hall d'entrée. Les jumeaux se demandaient quels moyens Dumbledore avait pu mettre en œuvre pour empêcher les élèves en dessous de 17 ans de soumettre leur candidature.
« Et qui est ce juge impartial chargé de choisir les noms des champions ?»
demanda Harry.
« C'est pas, »
dit Fred. « Mais c'est lui qu'il va falloir berner. Quelques gouttes de potion de vieillissement devraient faire l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses, George ?»«
Dumbledore sait très bien que vous n'avez pas l'âge, »
fit remarquer Ron.
« Oui, mais c'est pas lui qui doit désigner le champion, » dit Fred d'un air rusé. « À mon avis, une fois que ce fameux juge connaîtra le nom des candidats, il choisira le meilleur de chaque école sans se préoccuper de son âge. Dumbledore essaie simplement de nous empêcher d'être candidats.
N'oubliez quand même pas qu'il y a des gens qui en sont morts, dit Hermione d'une voix inquiète, tandis qu'il franchissait une porte masquée par une tapisserie et montait un autre escalier plus étroit.
« Oui, bien sûr, »
répondit Fred d'un ton dégagé. « Mais c'était il y a longtemps. D'ailleurs, si on veut vraiment s'amuser, il faut bien qu'il y ait un peu de risque. Hey, Ron, imagine qu'on trouve un moyen de contourner l'interdiction. Est-ce que tu auras envie d'être candidat ?
Qu'est-ce que tu en penses ?
Demanda Ron à Harry.
« Ce serait bien d'essayer, non ? Mais je pense qu'ils veulent quelqu'un de plus âgé. Je ne crois pas qu'on sache à cette chose.
Moi, je suis sûr que j'en serais pas capable, »
dit la voix triste de Neville, derrière Fred et George.
« Ma grand-mère voudrait sûrement que j'essaie. Elle n'arrête pas de me répéter que je devrais faire honneur à la famille. Il faudra simplement que... »
Ah ! Le pied de Neville venait de passer à travers un trou à mi-hauteur de l'escalier. Il n'était pas rare que les escaliers du château réservent des surprises de ce genre et les plus anciens élèves de Poudlard avaient pris l'habitude d'enjamber cette marche particulière sans même y penser. Mais Neville était connu pour sa mémoire défaillante. Harry et Ron le saisirent chacun par un bras et le hissèrent hors du trou, tandis qu'une armure en haut de l'escalier se mettait à grincer en éclatant d'un rire guttural.
Tais-toi ! Tais-toi ! Dit Ron en rabattant au passage la visière de l'armure.
Ils continuèrent de monter jusqu'à la tour de Gryffondor, dont l'entrée était cachée par un grand tableau représentant une grosse dame dans une robe de soie rose.
« Le mot de passe ? »
demanda-t-elle en les voyant approcher.
« Faribol, » répondit George. « C'est un préfet qui me l'a donné. »
Le tableau bascula, laissant apparaître un trou dans le mur. Ils s'y engouffrèrent, pénétrant dans la salle commune où les attendaient des fauteuils confortables et un feu qui craquait dans la cheminée. Et Hermione regarda les flammes d'un air sombre et Harry l'entendit marmonner.
« De l'esclavage. »
Puis elle leur dit bonsoir et disparut par la porte qui donnait accès au dortoir des filles. Harry, Ron et Neville montèrent le dernier escalier en colimaçon qui menait à leur dortoir, situé au sommet de la tour. 5 lits à baldaquin aux rideaux cramoisis étaient alignés le long des murs et les bagages de chacun avaient été déposés à leurs pieds. Dean et Simus se préparaient déjà à se coucher. Simus avait épinglé sa rosette d'Irlande à la tête de son lit et Dean avait accroché un poster représentant Victor Krum au-dessus de sa table de chevet. Sa vieille affiche de l'équipe de football de West Ham était collée juste à côté.
« Vraiment ridicule !»
soupira Ron en hochant la tête à la vue des joueurs de football complètement immobile. Harry, Ron et Neville enfilèrent leurs pyjamas et se mirent au lit. Quelqu'un, un elfe de maison sans doute, avait glissé des bouillottes entre les draps. S'allonger dans les lits tièdes en écoutant l'orage qui se déchaînait au dehors procurait une sensation de confort extrême.
« J'aimerais bien être candidat.
» dit la voix ensommeillée de Ron dans l'obscurité. « Si Fred et George trouvent le moyen. » Le tournoi, on sait jamais. Tu crois pas ?
Peut-être,
dit Harry. Harry se retourna dans son lit. Des images étourdissantes défilaient dans sa tête. Il avait réussi à faire croire au juge impartial qu'il avait 17 ans. Il était devenu le champion de Poudlard. Les bras levés en signe de triomphe, il était acclamé par toute l'école réunie dans le parc. Il venait de remporter le tournoi des trois sorciers. Dans la foule indistincte, le visage de Chaud lui apparaissait nettement, le regard brillant d'admiration. La tête dans l'oreiller, Harry eut un large sourire. Pour une fois, il était content que Ron ne puisse pas voir ce que lui-même voyait.